Le pape François, par sa lettre apostolique à Permitilis du 30 septembre dernier, a institué ce troisième dimanche de l'année comme dimanche de la parole de Dieu. Il rappelle ainsi combien la relation qui existe entre le ressuscité, Jésus, et la communauté chrétienne est en lien étroit avec cette écriture et ce lien est vital. En effet, le pape nous dit, si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en profondeur l'Écriture sainte. Et pourtant l'inverse aussi est vrai, sans l'Écriture sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. Il y a donc la nécessité de pouvoir lire cette parole de Dieu, mais de pouvoir la mieux comprendre. Et vous savez, c'est ce rôle qu'a l'homélie après chaque lecture, essayer d'aller en profondeur dans cette écriture pour y découvrir évidemment le Christ, mais y découvrir notre propre vie et ce que nous découvrons justement tout particulièrement avec les lectures de ce dimanche qui nous donnent d'entrer dans cette profondeur de ce que Dieu nous dit pour découvrir cette richesse qui doit être aussi la nôtre. Ainsi, en ce troisième dimanche, Jésus, ayant été investi par son baptême, ayant été tenté au désert, parce qu'il a résisté à la tentation, il part accomplir sa mission. Et que voyons-nous dans les premiers actes réalisés par Jésus? Première action, Jésus, il quitte son village, il quitte sa famille et son métier. Ce détachement que Jésus va vivre, nous voyons tout de suite qu'il va le demander à ses disciples, tout laisser pour le suivre. Éloignement de Jésus qui s'explique chez Matthieu par le fait que Jésus se sent en insécurité en Judée, comme Joseph a décidé au retour d'Égypte de rentrer à Nazareth. Depuis l'arrestation évidemment de Jean-Baptiste et nous le savons, la décapitation qui aura lieu par la suite. Jésus part donc, et il part à Capharnaüm, au nord donc de la mer de Galilée, aux confins de toutes ces régions, pays de Zabulon et de Nephtali. Ces deux noms sont ceux, vous le savez, de deux des fils de Jacob qui reçurent une part de la terre promise. Cette terre est particulière puisque, comme elle est au croisement de toutes les routes, elle est le pays district appelé district des gentils, lieu de passage. Ainsi, en choisissant ce lieu, Jésus annonce déjà quel sera son ministère. Il n'est pas à Jérusalem, il est dans un pays où toutes les religions se croisent. Il annonce déjà que sa mission sera à la fois pour les Juifs, mais aussi pour les païens. En allant dans cette région, Jésus aussi, comme nous le dit Matthieu, accomplit la parole de Dieu, puisque nous voyons dans le prophète Isaïe, 8 siècles avant la venue de Jésus, combien une lumière va apparaître dans cette terre de Galilée. Une lumière a resplendi dans les ténèbres. Et ce thème de lumière est important, puisque nous le retrouvons dans le chant d'introduction, mais nous le trouvons aussi dans le psaume et nous le retrouvons dans la communion de ce jour. Une grande lumière qui est cette lumière qui vient libérer les hommes du péché. Un autre motif peut nous faire comprendre ce lieu où le Seigneur vient enseigner pour la première fois, c'est la ville même où justement Pierre est présent. Celui que Jésus va choisir comme chef de son Église. C'est aussi cette ville où sont présents Jean et André. Mais souvenons-nous aussi, celui qui est l'auteur de l'Évangile, Matthieu, qui est à son poste d'agent de change. C'est ce lieu aussi où Jésus commencera ses toutes premières grandes guérisons. Nous avons donc dans l'Évangile de ce jour le début de la prédication du Seigneur et nous découvrons combien cette prédication est la même que Jean-Baptiste. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous voyons combien ce ministère du Seigneur porte à la fois sur un enseignement, ce qu'il dit, mais les faits, il guérit. Ces actes de Jésus donc portent à la fois sur l'ordre du visible, puisque Jésus guérit, sur l'ordre de l'audible, puisque Jésus enseigne, mais sur l'ordre aussi de l'invisible. Car la guérison de Jésus n'est pas simplement matérielle, elle est la libération des hommes du péché, c'est donc l'intériorité des hommes qui est touchée par cette venue du Seigneur. Le Seigneur convertit les cœurs par l'action de l'Esprit-Saint. Et nous voyons donc de ce fait que dans l'Évangile, il y a un étroit entre la première partie, comme je vous le disais, et la deuxième, même si une lecture brève permet d'écouter la première. Car véritablement, la conversion que le Seigneur nous appelle à vivre est traduite par cet appel des premiers disciples. Être chrétien, c'est suivre le Christ, vivre avec lui et témoin de cette introduction dans notre propre vie, de cette lumière qui nous révèle la volonté de Dieu, mais qui nous révèle ce que nous sommes. Alors un autre point aussi peut nous permettre de comprendre le choix que fait Jésus de ces hommes qui n'ont aucun diplôme. Nous aurions eu actuellement à choisir des apôtres, on aurait cherché les études, les qualités véritablement des personnes à choisir. Là, non, pas du tout, des pêcheurs. Il faut se souvenir que dans l'Ancien Testament, la mer est toujours le signe même de la présence du mal. Et de ce fait, en choisissant des pêcheurs, de poissons, ces hommes qui sont habitués aux lieux qui symbolisent le mal, ils vont être appelés à devenir pêcheurs d'hommes, de donner à ces hommes de sortir du mal pour être libérés par la toute-puissance du Seigneur. Il est véritablement, dès le début de son ministère, celui qui témoigne ce pourquoi il est venu, à la fois unir tous les hommes, auprès de celui qui est le sauveur de tous les hommes, pour les libérer du péché. Et c'est pourquoi nous retrouvons dans les lectures de ce jour ce thème de l'unité qui est présente indirectement dans la première lecture, puisque c'était la réunification du royaume qui était proposée, mais aussi dans la seconde lecture de la lettre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Oui, cet message d'unité est lié à cet enseignement du Seigneur qui révèle le Père, qui révèle qui nous sommes, et c'est pourquoi cette unité est le fait de l'unité même de Dieu. Il y a un seul Père, un seul Sauveur, le Christ, un seul sacrifice qui nous sauve, la croix, un seul baptême qui nous unit, une seule parole qui nous est donnée pour connaître Dieu et vivre de la vie de Dieu. Alors demandons au Seigneur en ce jour de la parole de Dieu, de pouvoir découvrir combien cette parole est essentielle dans notre vie, parce qu'elle nous donne de découvrir combien ensemble nous sommes appelés à vivre de cette unité qui n'est possible que si nous sommes à l'écoute de celui qui se révèle dans cette parole grâce à l'Esprit-Saint que nous avons reçu et à cette vie qui nous est appelée à vivre en paroisse, en communauté, où cette unité qui doit être la nôtre est le témoignage de ce que nous sommes. À l'image de cette Galilée où tous les peuples se sont réunis, nous sommes aussi, du fait des grandes distances qui sont les nôtres, à témoigner de notre unité en nous retrouvant à chaque célébration dans ce signe qui est le nôtre du Seigneur qui nous a unis et dont nous devons témoigner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.